Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot. This is why I'm hot.
France Culture, bienvenue dans Soft Power, magazine des industries culturelles et du numérique, comme tous les dimanches de 18h10 à 19h30 en direct. Art, médias, numérique et philosophie, ce soir, en cette période de vacances, on s'offre une émission un peu théorique, philosophique, sociologique. Vous allez voir, le sujet est passionnant, autour du penseur Bruno Latour. C'est l'un des philosophes et sociologues français les plus traduits et commentés au monde, et on tente ce soir de décrypter sa pensée, notamment dans nos secteurs, d'où le lien avec Soft Power. Le Soft Power, son influence donc, mais aussi, je l'ai dit, l'art, le numérique et les médias. Dans l'actualité ce soir, en début d'émission, on parle de Nicolas Sarkozy qui entrerait au conseil de surveillance du groupe Lagardère, éditeur du journal du dimanche et de Paris Match notamment. Ceci suscite naturellement des remous. Et puis au SFS, deux livres ce soir en début d'émission.
Deux livres qui travaillent les questions de l'intimité, de la vie privée et de ses traces numériques. Tout d'abord, vous recevez Quentin Laffey pour son livre L'intrusion qui paraît chez Gallimard, et on évoquera aussi Disparaître dans la nature, un livre qui paraît début mars aux éditions Marchiali et qui raconte comment un journaliste américain a tenté de disparaître. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui ?
Si on ajoute à cela un petit peu de David Bowie, voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power ce soir. L'émission est réalisée par Lionel Quentin, avec Cindy Legru-Melec en régie. Émission préparée par Nathan Marcel Millet, avec pour les réseaux sociaux David Pata. Vous pouvez suivre cette émission sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist Soft Power de Spotify, ainsi que sur Instagram, Facebook, LinkedIn et bien sûr en podcast chaque semaine, en vous abonnant gratuitement au podcast sur le site de France Culture, sur iTunes ou sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power jusqu'à 19h30 sur France Culture en direct. Vous avez le programme. C'est parti. D'ailleurs 18h13 en direct sur France Culture. On commence par cette actualité confirmée au journal Le Monde ce week-end, la possible entrée de Nicolas Sarkozy au conseil de surveillance du groupe Lagardère.
Oui, alors vraisemblablement cette entrée, elle est plus ou moins confirmée. On évoque même l'idée que Nicolas Sarkozy puisse potentiellement prendre la présidence de ce conseil de surveillance du groupe Lagardère. Donc le groupe Lagardère, c'est le sport, les voyages, l'édition et la presse, les titres de presse du groupe Lagardère. C'est donc le JDD, le journal du dimanche, Europe 1 et Paris Match. Alors, à quoi correspond cette entrée de Nicolas Sarkozy dans ce conseil de surveillance ? Eh bien, c'est une volonté évidemment d'Arnaud Lagardère. C'est un geste qui permettrait à l'héritier de conserver le système juridique dit de commandite. C'est un peu technique, mais c'est intéressant. C'est un système qui verrouille le pouvoir au profit d'Arnaud Lagardère, en dépit du fait qu'il ne possède que 8% des actions du groupe. Un système qui est systématiquement, très régulièrement ces dernières années, décrié par les autres actionnaires de ce groupe, puisqu'il permet à Arnaud Lagardère de s'enrichir quels que soient les problèmes de gestion du groupe. Or, ce groupe, il a beaucoup de problèmes de gestion. Il y a quasiment 10 ans, enfin au moment de la mort de Jean-Luc, le père Lagardère, le groupe valait 10 milliards d'euros. Il n'en vaut que 2 milliards. 4 a priori aujourd'hui. Arnaud Lagardère a déjà cédé le groupe Elle, le magazine, au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qu'on retrouve au Monde aussi, ses parts dans Airbus. Et puis, le 20 février dernier, on a eu l'officialisation de la vente des 75% de Lagardère Sport pour près de 80 millions d'euros, une branche dans laquelle Arnaud Lagardère avait lui investi 1 milliard. Donc clairement, on est sur une forme d'échec pour Arnaud Lagardère. Alors pourquoi est-ce qu'il fait entrer donc son ami, celui qu'il surnomme aussi son frère, Nicolas Sarkozy, à ce conseil de surveillance? Eh bien, parce qu'au capital de ce fameux groupe, il y a Arnaud Lagardère, 8% uniquement, et le fonds Amber. C'est un fonds américain extrêmement agressif, extrêmement critique face à Arnaud Lagardère et à sa gestion du groupe. Mais il y a aussi le fonds souverain du Qatar, qui est l'actionnaire principal du groupe. Et on connaît les bonnes relations de Nicolas Sarkozy avec les Qataris. Il y a aussi le Crédit Agricole, dont le principal dirigeant aujourd'hui n'est autre que Xavier Muscat. Xavier Muscat, c'était l'ancien secrétaire général à l'Élysée de Nicolas Sarkozy. Donc en fait, le but pour Arnaud Lagardère, c'est de convaincre et les Qataris et le Crédit Agricole de ne pas l'abandonner face au groupe Amber. Alors évidemment, cette entrée de l'ancien président au conseil de surveillance du groupe peut clairement inquiéter les trois titres de presse. Ils sont déjà relativement fragiles, en tout cas le JDD, Europe 1, Paris Match. Pourquoi ? Parce que même si Nicolas Sarkozy n'est plus officiellement actif en politique, quoique certains épisodes par le passé ont semblé montrer qu'il était capable d'ingérence dans les lignes éditoriales du Monde. Je vous rappelle qu'en 2005, Paris Match avait publié en couverture une photo de Cécilia Sarkozy en compagnie de son amant qui est depuis devenu son mari, Richard Attias, et que Alain Genestard, le directeur du magazine, avait refusé de mettre la direction du groupe au courant. Un crime clairement de lèse-majesté pour Nicolas Sarkozy.
Qui avait coûté son poste à Alain Genestard,
qui pourtant travaillait, enfin qui avait, on va dire, clairement hissé Paris Match au niveau où il était, qu'il dirigeait depuis plus de 15 ans à cette époque-là. Et puis quelques jours plus tard, on avait les journalistes du JDD qui avaient découvert que Cécilia Sarkozy n'avait pas voté au second tour, qu'elle n'avait pas signé la liste d'émargement dans le bureau dans lequel elle était inscrite. Et donc cet article avait été rédigé, il avait été mis en page et puis finalement il avait été censuré, il n'était pas passé dans ces pages. Cette information était sortie dans Rue 89 et évidemment ça avait fait énormément de bruit, d'autant que quelques semaines plus tard, Le Canard Enchaîné avait révélé que Jean-Pierre Elkabbach, le patron d'Europe 1 à l'époque, qui est toujours dans le groupe Lagardère, avait consulté le candidat Nicolas Sarkozy avant de recruter un journaliste politique qui devait couvrir l'UMP. Voilà, alors tout ça c'était du temps où Nicolas Sarkozy était encore, comme on dit communément, aux affaires. Que va-t-il se passer ? Est-ce qu'il va véritablement prendre la présidence de ce conseil de surveillance ? Ça peut être un signe extrêmement fort, relativement inquiétant. En tout cas, ce n'est clairement pas non plus un bon signal pour les titres de presse et l'activité de presse de Lagardère qui semble de plus en plus fragile.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Et puis, Zoé se fait toujours dans l'actualité, en tout cas l'actualité des livres, un ouvrage qui paraît dans les jours à venir.
Oui, un ouvrage « Disparaître dans la nature » qui paraît aux éditions Marcali. Alors, on a évoqué ces dernières semaines ici dans cette émission le livre de Olivier Tesquet, « Vie privée », qui est un essai qui essaie de comprendre comment finalement nos traces numériques se multiplient et comment le capitalisme qui se fonde dessus est peut-être souvent trop difficile pour nous à contrôler et à regarder. On peut se réjouir donc de l'apparition aux excellentes éditions Marcali qui avait publié notamment les livres de J.K. Adelstein, « J'ai acheté ma vie en Bitcoin ». Eh bien, de ce livre, alors c'est un livre imprimé en recto et en verso, on a donc deux récits des deux côtés. Le principal morceau de choix de ce livre, c'est la traduction d'un article, en tout cas d'une expérience menée en 2009 par un journaliste américain, Evan Radcliffe. Il est spécialisé dans la question des nouvelles technologies, il travaille pour The Wired, magazine mythique du groupe Condé Nast. Il se penche un peu sur le cas de ces 200 000 Américains majeurs qui disparaissent chaque année dans la nature et dont une étude prouve qu'en réalité ils sont près des deux tiers à avoir organiser leur disparition. Alors, deux questions se posent, évidemment, pourquoi le font-ils ? Les explications sont souvent différentes, mais surtout, et il se pose la question en 2009, Evan Radcliffe, avec les nouvelles technologies, la manière dont nous vivons, est-ce qu'il est encore possible de disparaître dans la nature ? Est-ce qu'on peut vivre sans laisser de traces ? Et puis, en creux, se pose une autre question, quand on y renonce, qu'est-ce qu'on découvre, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce qu'est notre vie privée, notre intimité ? Alors Evan Radcliffe, qu'a-t-il fait ? Il a annoncé dans Wired qu'il allait disparaître le 15 août 2009. Et il mettait au défi les lecteurs du magazine de le retrouver. Ils avaient un mois pour le retrouver. S'il réussissait à donc l'identifier, à se prendre en photo à côté de lui avant le 15 septembre 2009, ils empochaient 5000 euros. S'il réussissait à passer les mailles du filet, c'était lui qui empochait ces fameux 5000 euros. Très vite, il y a une communauté de chasseurs qui se met en place et qui ligue ses forces, qui s'entraide, qui lance des bonnes pistes, des fausses pistes, notamment contre les autres chasseurs, mais aussi contre Radcliffe, parce qu'on se doute bien que lui suit sa propre traque. Voilà, ça va du gentil petit hacker au lycéen perdu de 16 ans, à un ancien détective privé et à un informaticien. C'est un personnage passionnant. Alors en fait, cet article, il est assez génial parce qu'il raconte, d'une part, les précautions technologique que doit prendre Radcliffe. On est encore en 2009, puisqu'évidemment, il est facile de le pister par son ordinateur, par son adresse IP. Donc, il utilise évidemment Tor, puis différents logiciels, parce qu'il se rend compte que le niveau de ses adversaires est bien plus élevé que ce qu'il pensait. Par ses cartes bleues, Radcliffe identifie les quelques marques, les quelques compagnies aériennes qui permettent encore de payer en cash, ou en tout cas avec des chèques cadeaux. Elles sont relativement peu nombreuses là aussi. Et comment est-ce qu'on peut faire pour vivre, a fortiori, voyager, sans laisser de traces ? On se rend compte que c'est pas impossible, mais très très difficile. A contrario, enquêter sur la personnalité de quelqu'un relève d'un jeu d'enfant, puisque très vite, tous les gens qui traquent Radcliffe se débrouillent pour tout savoir de lui. Ils dénichent ses plus vieilles photos, les noms de ses petits amis, ses connaissances, ses passions, notamment sur le football américain. Ils misent sur une chose, en fait, ce qui constitue son identité, son intimité, va nécessairement finir par le trahir. Un homme ne peut pas vivre seul, et Radcliffe, même déguisé, même traqué, même méconnaissable, il tentera un jour ou l'autre, sous sa nouvelle identité, de se faire des amis, ou en tout cas d'aller dans des endroits qui normalement l'intéressent, et c'est ça qu'il trahira. Évidemment, je ne vais pas vous livrer la fin de cette enquête, puisqu'il faudra que vous achetiez le livre, mais c'est une réflexion assez passionnante sur ce qui constitue notre identité, ce qu'on dit de nous, tout simplement en achetant un sandwich ou en publiant une photo sur un réseau social. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, la solitude de l'aventure et en même temps la sensation que le reste du monde sait tout de lui terrorise presque autant Radcliffe que la perspective potentielle de son échec. Ce qui est aussi intéressant, c'est que cet article, il date de 2009. C'est il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, c'est une éternité, on va dire,
à l'échelle du numérique.
Et franchement, on se demande si une telle expérience serait encore possible aujourd'hui.
Et puis le lien est facile à trouver avec notre premier invité de ce soir, Quentin Lafay, bonsoir.
Bonsoir.
Vous publiez un roman, c'est d'ailleurs bien précisé en tout cas sur les épreuves du livre que j'ai lu, un roman aux éditions Gallimard, 128 pages, un livre qui s'intitule « L'intrusion ». On vous reçoit ce soir parce que ce livre, au-delà de l'aspect roman sur lequel on va revenir, est aussi l'évocation d'une réalité. Le passage d'ailleurs de la fiction à la réalité est intéressant. Je précise que vous êtes écrivain, scénariste, que vous avez été l'une des plumes d'Emmanuel Macron, notamment lorsqu'il était ministre de l'économie. Puis vous êtes devenu l'un de ses conseillers à l'Élysée avant de prendre le large et de partir notamment en Californie. Vous revenez avec ce livre. Commençons peut-être par le roman. C'est un roman, évidemment, avec des personnages. Je pense notamment à ce Hugo Valmier, jeune Premier ministre, qui connaît une affaire de prostitution, qui fait comme un écho à ce qui s'est passé ces jours derniers. Comment est-ce que vous avez fait le choix de partir sur un roman, au fond, de décrire une expérience, celle d'une victime de Vatilix, de Wikileaks. Donc de Julian Assange d'une certaine manière, et d'être d'une certaine manière le patient zéro.
Eh ben, c'est parti d'une réalité que j'ai vécue d'abord, puisque deux jours avant le second tour de l'élection présidentielle, en 2017, je me suis moi-même fait pirater et j'ai vu...
C'était un compte Google
C'était un Gmail, ouvert en 2008 ou 2009 de mémoire, et j'ai vu l'ensemble donc de ce contenu Gmail diffusé sur Internet. C'était un Gmail privé, je le précise, qui n'avait pratiquement pas de lien avec la campagne et ma profession de l'époque. Et donc voilà, ce que je décris dans ce roman, c'est l'expérience de voir sa vie intime. Alors c'est pas toute sa vie intime, c'est un champ réduit de la vie intime, c'est la vie numérique, la vie qu'on mène à travers les emails qu'on envoie et que l'on reçoit. Mais je tente de décrire voilà ce que ça fait de voir toute cette somme de choses souvent très très banales, mais qui nous constituent, être diffusées du jour au lendemain et consultables par à peu près n'importe qui.
Banal, ça veut dire quoi ? Des fiches de paye, des rencontres personnelles, des amitiés, des secrets aussi.
Des secrets, pas tellement de grands grands secrets, c'est-à-dire qu'on n'a rien découvert de fascinant concernant ce que j'étais. En revanche, des ambiguïtés, des hypocrisies, des manières de s'adresser différentes à selon que l'on parle à ses parents, sa petite copine ou son petit copain, sa famille, ses collègues, etc. Et cette duplicité, cette manière d'être
qui est propre à chacun,
qui est propre à chacun, qu'on partage tous, mais qu'on assume absolument jamais, jamais
publiquement.
En public. Une fois que c'est révélé au grand jour, une fois que ça devient, une fois qu'on est un hypocrite officiel, si je puis dire. C'est là que ça devient très très dur à gérer et que c'est éminemment violent.
Vous êtes cinq membres proches de l'équipe de campagne Emmanuel Macron à se faire pirater, mais les cinq le sont à cause de vous.
Non, alors ça c'est ce que je raconte dans le roman. Mon protagoniste dans le roman clique sur le faux email qu'on lui envoie et c'est par lui, à travers lui, que le piratage se répand dans le roman et se répand dans cette entreprise privée un peu sulfureuse. Dans la réalité, moi c'est pas, en tout cas, je crois pas. C'est pas ce qui s'est passé. Je sais pas qui a cliqué. Je sais pas exactement d'ailleurs comment on a été piraté d'un point de vue technique.
Ça, vous n'avez jamais eu le fin mot de l'histoire.
Non, on n'a jamais eu. En fait, on n'a pas été du tout suivi après ce piratage. Personne m'a appelé, ni les services de l'État.
Contrairement dans le roman.
Contrairement au roman où là on les...
Ça commence par cette scène justement où quelqu'un vous appelle, vous dit, vous raconte.
Voilà, il explique une chose très très simple, c'est que quand on est piraté et quand on a tous ces mails diffusés sur Internet, il n'y a plus qu'une chose à faire,
c'est aller se coucher et à fermer l'Internet.
C'est serrer les dents et fermer Internet. Parce que moi, évidemment, je n'y connaissais pas grand-chose quand ça m'est arrivé. Et pendant 10 minutes, jusqu'à ce qu'on m'explique que ce ne serait pas le cas, j'ai cru qu'on pourrait réaspirer toutes ces données et que je pourrais m'en sortir. Voilà, évidemment, ça n'a pas été possible.
Alors vous, Quentin Lafay, vous publiez ce roman, mais clairement vous le dites, vous avez publié une tribune en début de mois dans Le Monde qui s'intitule « J'ai été piraté par Wikileaks, mais... »
Victime de Wikileaks.
Victime de Wikileaks, mais je soutiens Julian Assange. C'est une chronique qui est relativement intéressante, où effectivement vous revenez sur l'idée que cette fameuse phrase de « vous n'avez rien à cacher », donc finalement, si vous n'aviez rien à cacher, c'est que c'est pas si grave. Vous racontez comment vous les avez haïs, clairement, notamment parce que il y a eu cette politique de la part de Wikileaks de en fait tout publier, tous les courriers piratés, y compris ceux qui n'avaient strictement aucun intérêt au regard d'une volonté politique de dénonciation de certains faits. Avais-je raison de rejeter et de discréditer leur entreprise entière ? Vous répondez que non, tout en dénonçant, et vous le dites, des dérives réelles. Comment est-ce que vous regardez Wikileaks aujourd'hui ?
Je tente simplement de faire la distinction entre ce qui m'est arrivé d'un point de vue personnel et ce qui ne concerne au fond que moi, c'est-à-dire la violation de mon intimité. Et Wikileaks a clairement aidé cette diffusion de l'intimité, puisque quelques mois après le piratage, dans l'été qui a suivi l'élection présidentielle, ils ont mis sur leur plateforme l'ensemble de ces emails privés, sans faire la distinction entre ce qui relevait... de l'intérêt général et ce qui me concernait...
Donc là, c'est la grande différence avec Snowden, où tous les emails ont été édités, notamment par Glenn Greenwald et par les journalistes du Guardian et d'autres journaux qui les ont édités.
Oui. Absolument. Et dans le même temps, je ne veux pas rejeter en bloc l'entreprise menée par Wikileaks depuis près de 15 ans et qui a consisté à révéler, pour le coup, de nombreux scandales d'État d'intérêt général. Je pense notamment aux conditions de détention à Guantanamo, aux exactions commises par l'armée américaine en Afghanistan et en Irak, au fonctionnement du régime syrien, au fait qu'un président français avait été espionné sur son téléphone durant des années par la CIA et la NSA. Ce travail-là qui a été mené notamment par Julian Assange, je tiens à lui rendre hommage et je pense que c'est un travail important qu'on doit reconnaître.
Donc, s'il est finalement extradé, parce que je crois que l'audience, c'est la semaine prochaine.
Début de demain, oui.
Début de demain, oui, exactement. Qu'est-ce que vous en pensez ? En même temps, vous parlez de dérive réelle, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a effectivement cette mise au ban de cet homme qui est traité vraiment comme un criminel de guerre, ce qui, d'une certaine manière, pose deux questions. Est-ce que Wikileaks peut lui survivre ? Ça, c'est une question qu'on se pose souvent. Et d'autre part, est-ce que ça ne pousse pas l'organisation dans ses retranchements et dans des positions peut-être parfois radicales ? Vous parlez de dérive réelle dans cette chronique.
Oui, ce qui compte là, à partir de la semaine qui s'ouvre, c'est de bien comprendre qu'on fait le procès de Julian Assange. En tout cas, c'est lui qui sera devant la juge. Mais c'est un débat beaucoup, beaucoup plus large qui s'ouvre demain. C'est le débat du rapport au réel, c'est le débat de la vérité des États. Est-ce que la première puissance mondiale peut mener des exactions en Afghanistan et en Irak sans jamais être dénoncée ? Est-ce que nous, on peut accepter qu'une fois que ces vérités sont révélées, est-ce qu'on peut accepter de livrer la personne qui les a mises en lumière? Voilà, donc c'est tout ce débat qui se joue demain, c'est le rapport à la vérité, à l'information. Et c'est aussi une forme de rapport au journalisme qu'on doit défendre, et c'est pour ça qu'on doit empêcher cette extradition.
Une question, puisqu'évidemment le livre « L'intrusion roman » publié chez Gallimard utilise et se nourrit de ce qui vous est arrivé. En même temps, c'est une histoire tout à fait différente que vous racontez avec des personnages, avec des filles, des garçons. Tout ça se passe différemment de sans doute votre vraie vie. Pourquoi vous avez fait le choix de la fiction et non pas d'une non-fiction ?
Parce qu'au fond, ce qui m'est arrivé, c'était une malchance et une malchance pour des raisons évidentes, et une chance d'un point de vue littéraire parce que je trouve que souvent le numérique est difficile à traiter d'un point de vue littéraire parce que c'est une matière qui est complexe, c'est une matière qui est froide, c'est une matière qui est difficile d'accès pour le profane. Et là, j'avais la chance, entre guillemets, de pouvoir faire un lien direct entre le numérique et la vie réelle, entre le numérique et la vie vécue. Et c'est ce que j'ai tenté de réaliser. Au fond, moi, je suis pas du tout un spécialiste du numérique. La technologie m'intéresse assez peu. Les outils, je les connais mal. Mais ça m'intéressait de décrire comment... Souvent, ce sont des débats un peu opaques, on réalise pas vraiment les données qu'on transmet, c'est un danger qu'on a du mal à pointer du doigt et à toucher réellement. Là, à travers cet exemple, à travers ce qui m'est arrivé, je pense pouvoir décrire et montrer le risque réel de partager ces données sur le numérique, sur Internet. Et c'était un objet littéraire en soi qui, à mon sens, ne me concernait pas seulement, mais qui concerne toutes les personnes aujourd'hui qui utilisent les outils numériques.
Vous avez été la plume d'Emmanuel Macron, votre héros donc, est un homme politique. Est-ce que vous avez la sensation, on parle de la Startup Nation, en tout cas Emmanuel Macron s'est positionné comme un président qui a investi la question numérique. Est-ce que vous avez l'impression qu'à l'instar ou pas de votre héros, notamment au sein de la classe politique, il y a une forme de conscience de ces enjeux et de leur prégnance et de ces questions liées aux données?
Je crois qu'il y a une conscience dans les discours, c'est-à-dire que c'est un sujet qui revient très très souvent dans les discours politiques.
Dans l'intimité, concrètement, dans la manière de gérer ses propres affaires, ses propres mails.
Alors je pense qu'on est une génération quand même où à l'échelle du numérique, on commence simplement à intégrer les usages et on commence seulement à apprendre à se protéger. Mais on est un peu cette génération d'entre-deux, c'est-à-dire qu'on a tout un apprentissage à faire. Il faut qu'on apprenne à se prémunir, il faut qu'on apprenne à se protéger, il faut qu'on apprenne à faire un usage beaucoup plus précautionneux du numérique. Et ça va prendre un peu de temps, comme tous les usages technologiques. Mais l'actualité montre qu'on n'y est pas encore tout à fait.
Est-ce que ça a été difficile de passer au roman? C'est votre deuxième roman, en l'occurrence. Mais est-ce que c'est difficile de raconter une autre histoire? Comment on fait les choix? Au fond, le roman, c'est aussi des perspectives, des ouvertures immenses, innombrables, sans limite, alors que ce qui vous est arrivé était très précis. Comment on articule, à partir d'une expérience si précise, un roman qui est très différent?
J'ai simplement essayé de tirer le fil et de rassembler toutes les sensations que j'avais vécues ou croisées pour en constituer un objet littéraire. Mais si je m'étais limité à l'expérience même que j'avais traversée, au fond, ça aurait été assez réduit. On a toujours un arbitrage à faire avant de commencer un texte entre le récit de l'expérience et la tentative littéraire. Si je m'étais limité à l'expérience, ça aurait été au fond assez pauvre parce que j'ai pas non plus vécu un traumatisme fondamental immense, même si ça a été difficile.
En revanche, ça veut dire que la littérature est plus riche finalement, elle offre plus de perspectives.
Dans ce cas-là, je pense qu'elle m'a permis en tout cas d'aller beaucoup beaucoup plus loin et de vivre la vie de personnes que je ne connaissais pas.
Le livre s'appelle L'Intrusion, c'est un roman, il paraît chez Gallimard, il est signé Quentin Laffey. Merci d'être venu sur Soft Power ce soir.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love lift be off. With you.
This is ground control. En ce dimanche de chasse et croisée des vacanciers des zones A, B et C, nous avons souhaité prendre un peu de recul ce soir, ce qui est assez rare dans Soft Power. Et donc, on va essayer, sinon même de prendre du recul, peut-être d'atterrir sur Terre, sur le terrestre dans Soft Power. Et ce soir, nous avons choisi de nous intéresser à un penseur hors norme, un philosophe hors champ, qui est aussi un historien des sciences et un sociologue, Bruno Latour. Alors pourquoi Bruno Latour? D'abord parce que l'œuvre de Latour influence aujourd'hui nos secteurs créatifs, ceux de cette émission, ceux de cette chaîne d'ailleurs, celui des médias, celui du numérique, de l'art également. Et son influence d'ailleurs dépasse largement nos frontières. Bruno Latour est l'un des intellectuels français les plus traduits au monde et les plus commentés. Son influence internationale, ce soft power justement, est significative. L'œuvre de Bruno Latour a été présentée régulièrement sur cette chaîne, dans Affinité élective, dans La Suite dans les idées, dans Les chemins de la philosophie ou encore dans Hors champ, ou Place de la Toile à l'époque. Et nous écouterons d'ailleurs plusieurs extraits de ces émissions. Nous avons également choisi de faire, de consacrer cette émission Soft Power à Bruno Latour en l'écoutant, mais sans qu'il soit présent en studio, car nous voulons parler de son œuvre de façon pédagogique, et il est difficile qu'un auteur aussi important vienne lui-même parler de cette influence. C'est comme d'ailleurs lorsque Bruno Latour est mis en scène au théâtre par Frédéric Aitwati. Il n'est plus sur scène désormais, mais il n'en est pas moins omniprésent, comme il le sera ce soir. À sa place, nous avons invité certains de ses étudiants. Nous avons interrogé une dizaine de ses collègues pour nourrir cette émission. Et en plateau, nous accueillons en direct ce soir Frédéric Aitwati, justement, car elle dirige aujourd'hui SPIP, le Master d'expérimentation en art politique de Bruno Latour à Sciences Po, et elle met en scène son théâtre. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Comment est-ce que vous définiriez vous-même votre travail ?
Comme un travail hybride. Je suis à la fois metteur en scène de théâtre et aussi chercheur à l'origine. Hein. Je viens de l'histoire de la littérature, je me suis beaucoup intéressée à l'histoire des sciences. J'ai essayé de faire le lien entre la fiction, l'astronomie, les sciences. Et puis aussi, je suis enseignante. Voilà, je travaille à l'EHESS et je dirige le master en arts politiques qui s'appelle SPIP, qui est à Sciences Po et qui a été fondé par Bruno Latour il y a 10 ans.
On écoutait en début d'émission, on peut d'ailleurs encore l'écouter, David Bowie. Pourquoi, d'après vous, on a mis cette musique ?
Je suis très contente que vous l'ayez choisie. Déjà, je suis comme beaucoup
d'entre vous. Space Oddity, titre Space Oddity d'ailleurs.
On adore cette musique, c'est un titre de 69. Et pour moi, c'était absolument central dans le spectacle qu'on vient de mettre en scène ensemble avec Bruno Latour, qui s'appelle Moving Earth, qui a été créé en décembre à Nanterre-Amandier, puis qui a été repris au Théâtre de l'Odéon en janvier, puis qui part en tournée maintenant.
Qui était au Cordelier aussi.
Qui était au Bernardin.
Au Bernardin,
dans le cinquième. Et c'est un spectacle où cette chanson de Bowie, pour moi, condense tout. C'est à la fois le rêve de partir dans l'espace et puis cette espèce de mouvement de retour sur Terre, en fait. C'est le début et la fin du rêve. Puis 69, c'est une date mythique, évidemment, pour la conquête spatiale. C'est aussi la date où Lovelock et Margulis se rencontrent. On en reparlera. C'est les créateurs de l'hypothèse Gaïa. Voilà, donc c'est une chanson où il y a tout.
Alors, ce qui est étrange, c'est que lorsqu'on a interrogé vos étudiants, et à ce moment-là, on parlait avec eux, ils ont fait référence eux aussi, sans qu'ils connaissent le lien avec votre pièce, qu'ils n'avaient pas vu. En tout cas, ils n'avaient pas vu le lien. Ils ont cité aussi cette chanson de David Bowie.
Je crois pour les mêmes raisons en fait, hein. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du terrestre à SPIP, on parle beaucoup de cette espèce d'inversion comme ça du mouvement des modernes qui ont voulu comme ça être dans un mouvement de conquête. Et voilà, c'est assez frappant que eux comme moi effectivement on soit tombé sur cette chanson qui est à la fois un imaginaire spatial et un imaginaire de la fin d'un temps.
Dernier axe de cette émission ce soir, nous avons fait des choix, évidemment. L'œuvre de Bruno Latour est si vaste, en particulier par ses apports conceptuels dans des domaines aussi vastes que la philosophie, les sciences, etc., qu'on ne va pas chercher à être exhaustif. Dans Soft Power, nous allons nous concentrer d'abord sur l'art, les réseaux, le numérique, l'enseignant Bruno Latour et sur quelques-uns de ses livres et ses concepts. Nous sommes avec Paul Girard, Ikram Benchrif et Diana Alzat, trois étudiants de SPIP, le laboratoire d'art politique de Sciences Po, le cours de Bruno Latour qui a lieu tous les jeudis dans la salle numéro 14 au 13 rue de l'Université à Paris, appelée simplement la S14.
Je suis Paul, je fais partie des 14 étudiants de SPIP, je suis danseur professionnel.
Et qu'est-ce qu'un danseur vient faire dans cette aventure ?
Je pense qu'il cherche à se déplacer quelque part, et je pense que chacun d'entre nous, on cherche ce déplacement, c'est-à-dire être confronté à d'autres méthodes, d'autres manières d'appréhender les mêmes questions qu'on se pose. Je pense que s'il y a quelque chose qui nous réunit aussi, c'est quelque part qu'on s'est posé les mêmes questions à un moment ou à un autre, et qu'il y a une forme de filiation des questions.
Unir, mélanger, assembler des artistes d'une part et des chercheurs en sciences sociales d'autre part, ça, c'est une alchimie qui fonctionne ?
Je pense qu'elle fonctionne. Moi, je ne suis pas danseuse. je réalise des films. Je préfère m'appeler auteur d'essai, documentaire plutôt. Je crois que je cherche aussi ce déplacement dont parlait Paul. Et je pense que ce déplacement arrive aussi à la rencontre d'autres disciplines. Je crois que travailler avec un danseur, un géographe, une ethnomusicienne, musicologue, est quelque chose qui apporte une ouverture sur des points de vue complètement différents. Pour un auteur, c'est aussi une manière de donner ou d'élargir encore son possible narratif. Et c'est quelque chose qui fonctionne, en tout cas dans la S14. Je crois qu'on arrive à fabriquer des choses complètement surprenantes.
La S14, c'est la salle numéro 14, c'est ça?
Oui, c'est la salle où se tiennent les cours de SPIP tous les jeudis.
Et ça se passe comment d'ailleurs, justement?
On commence toujours par un échauffement, que ce soit vocal, musical, et la danse, etc. Et pour mettre nos idées en commun. Et ensuite, on explore. On invente, on teste, on lit et on fait plein de choses.
Il y a une dimension de terrain aussi?
Il y a une grande dimension de terrain en fait. Une grosse partie de notre année est centrée autour de ces commandes qui sont passées à SPIP, qui savent ce qui s'y fait et ce qui s'y joue. Et donc on travaille par groupe autour de différentes commandes. Donc on passe un temps assez conséquent de terrain. Et toute la question est comment est-ce qu'on fait fusionner nos médiums pour mettre en forme, représenter les réponses qu'on trouve ou les questions que ça suscite.
Comment vous expliqueriez cette commande, ce qu'est une commande?
Alors une commande de SPIP est une enquête, un travail de terrain, mais une enquête, je dirais, sensible. Parce qu'il ne faut pas oublier qui fait cette enquête. Ce ne sont pas uniquement des chercheurs en sciences humaines, mais encore une fois, des danseurs, des réalisateurs, des gens qui viennent des milieux des arts. Une enquête sensible, ça veut dire quoi? Ça veut dire se rendre sensible et disponible à ces terrains-là. Et croiser aussi des idées de Dewey.
C'est-à-dire?
Eh bien, expérimenter, faire l'expérience, comme l'a défini Dewey. Mais la croiser aussi avec des idées de Bruno Latour, du réseau, par exemple, ce dont on dépend et ce qui dépend de nous. Des idées de Tsing, qui, elle, a inventé une nouvelle manière de faire du récit. Des idées de Frédéric Aitouati, qui, elle, a dessiné, essayé de faire de nouvelles cartes, qu'elle appelle aussi des cartes portulans. Croiser toutes ces idées-là, sont inspirées en tout cas, et composées avec les univers des personnes qui font l'enquête sensible, c'est cela, faire l'enquête, je pense.
Quels sont les concepts de Bruno Latour qui vous ont marqué, ou les livres?
Moi, le texte qui m'a marqué de Bruno Latour, c'est « Où atterrir ?». Donc c'est après la lecture de ce livre-là que je me suis intéressé à ce qui se faisait à SPIP. Mais ce qui m'a le plus marqué de Bruno Latour, c'est de le rencontrer. Et c'est son immense liberté, j'ai envie de dire, et sa curiosité aussi. Il aime bien nous donner des exercices. La réponse à ces exercices est très libre, c'est souvent des formes très différentes. Et je crois qu'on se sent tous très libres en fait, de proposer ce qu'on veut et de voir que c'est un travail de composition. Ce qu'on fait, ça implique qu'on peut rater et que les ratages... sont ok, font partie de...
Comme dans les startups.
Pas comme dans les startups.
Alors Bruno, je me souviens et j'ai envie de raconter le jour de mon entretien pour rentrer à SPIP. Il y avait Bruno Latour et je ne sais pas, 8 personnes à côté. On avait 15 minutes pour défendre l'accès à SPIP. Et Bruno démarre avec la question, qu'est-ce que vous allez apporter à SPIP? Alors que normalement, on vient pour prendre des choses quand on est étudiant. Et ça, du coup, c'est tout de suite Bruno. Ça déplace toujours la personne. Ça vous met en action. Et c'est ça pour moi aussi, Bruno, de nous faire tout de suite.
des artistes à Sciences Po, puisqu'on est quand même à Sciences Po, et Bruno Latour était directeur de la recherche à Sciences Po. Donc il y a une école qui prépare des diplomates, des grands chefs d'entreprise, des grandes administrations, parfois des énarques. Qu'est-ce que les artistes font dans cette galère ?
Eh bien, ils inventent de nouveaux récits. Des récits complètement différents. Nous prenons aussi des cours à côté dans l'école d'affaires publiques et il est intéressant d'être dans cet aller-retour entre les cours qu'on prend dans, dans un tronc commun et ceux qu'on fait le jeudi dans la S14. Mais je crois encore une fois que c'est ce qu'on se disait aussi autour des terrains de commande, c'est-à-dire qu'on arrive à l'hôpital et l'hôpital est à l'ouverture des journaux depuis des mois. Mais arriver dans cet hôpital-là et fabriquer un récit différent de celui qu'on pourrait raconter dans un journal parlé ou celui qu'on pourrait retrouver sur les pages d'un journal ou celui que ferait peut-être un chercheur en sciences humaines ou le discours que construirait un homme politique. C'est un récit différent, celui que pourrait apporter un danseur ou un artiste se trouvant dans ce lieu-là. Je crois qu'il a la possibilité de regarder des hors-champs, de déplacer les centres aussi, des questions, de les reposer, de les reformuler. Et je crois que ce regard-là est intéressant. Nous voyons ce que ça provoque sur nos terrains d'enquête, les déplacements qu'on peut faire, sortir des questions qui sont déjà prédéfinies et qui décrivent avec beaucoup de certitude ces milieux-là. Je crois que l'artiste a cette capacité, il n'est pas seulement là pour esthétiser ou donner une forme, mais il est aussi là pour contribuer à la fabrication de réponses. Et je pense que c'est ça le plus important dans les récits des artistes qui débarquent dans cette école d'affaires publiques ou qui fabriquent des discours politiques.
Qui atterrissent là, finalement.
Je dirais que la question, c'est plutôt pourquoi il n'y a pas plus d'artistes dans cette école d'affaires publiques.
Voilà. Pourquoi il n'y a pas plus d'artistes à Sciences Po ? Rebonsoir Frédéric Aitouati. Vous êtes désormais la responsable de SPIP, ce laboratoire d'art politique dont vos étudiants viennent de parler, étudiants de Bruno Latour également. Est-ce qu'on pourrait évoquer la méthode d'enseignement, au fond expérimentale, que Bruno Latour défend, une sorte de nouvelle pédagogie au fond ?
Oui, et pour ça il faut peut-être revenir à l'origine de SPIP, hein, qui était créé il y a 10 ans. Avec cette idée de créer un petit peu l'école rêvée de Bruno Latour, une école où on pourrait, par les arts, poser différemment les questions, les problèmes de la chose publique.
Par les arts, mais aussi par l'hybridation, puisqu'il y a des artistes, mais aussi des ingénieurs, des chercheurs en sciences sociales, qui sont ensemble et qui proposent donc de nouveaux formats de travail.
Tout à fait, c'est ça qui était important, qui était intéressant dans l'idée, c'était d'avoir des artistes, des chercheurs, des architectes, des designers, en fait, toutes les disciplines, les bienvenues, pour collectivement aborder des problèmes posés par des institutions extérieures. Donc on est tout de suite en lien avec des vraies questions, des institutions, ça peut être une mairie, le ministère de la Culture nous avait posé un problème sur, par exemple, la Villa Médicis à Montfermeil il y a quelques années, des hôpitaux, ça peut être un village, ça peut être une association.
Donc, encourager le travail de terrain, ce que vous appelez les commandes, qui sont, ils l'ont dit, les étudiants des enquêtes sensibles. Ça veut dire que Bruno Latour est un philosophe qui a des terrains, comme si, comment dire, sa sociologie était souvent presque une sorte d'anthropologie qui part du terrain, des rencontres, qui cherche à comprendre les choses qui sont en train de se faire.
Oui, et ce qui est très beau avec SPIP, c'est que c'est une manière en fait d'ouvrir ses méthodes à lui, de les partager, d'où la spécificité de cette méthodologie. Donc c'est assez particulier. On a une quinzaine d'étudiants qui arrivent au début de l'année, des artistes, des danseurs, et on les forme à la fois à tout un corpus théorique, mais surtout tout de suite à des manières de travailler qui sont évidemment issues de la sociologie de latourienne, enfin de ces techniques de suivre par exemple les acteurs sur le terrain, d'écrire patiemment avant d'évaluer, avant de juger, avant d'utiliser les catégories traditionnelles, passer du temps à écouter, et puis s'interroger sur les manières de représenter. Et je disais, ce qui est important, c'est de comprendre d'où vient SPIP. SPIP a été créé à l'époque où Bruno, vous venez juste de faire une exposition qui s'appelait Making Things Public, rendre les choses publiques, et qui faisait le constat d'une crise, d'une double crise de la représentation. Crise de la représentation politique et crise de la représentation scientifique. Et cette exposition développait cette idée-là avec l'aide des arts. Et finalement, SPIP est, la continuation pratique de ce problème-là. Donc, il y a un problème de représentation des choses publiques et on est obligé de mettre ensemble toutes les disciplines, les arts, les sciences sociales, mais aussi le design et l'architecture, qui sont très importants dans notre pédagogie, pour rendre en quelque sorte d'autres images dans l'espace public, pour partager les problèmes autrement.
Ça veut dire que la forme, du coup, est essentielle. Quelqu'un que j'ai interrogé me dit il n'y a pas forcément des problèmes idéologiques pour Bruno Latour, mais des problèmes d'écriture. Et donc, du coup, il fait faire aux étudiants des exercices d'écriture parfois assez baroques pour les outiller intellectuellement. Il leur recommande, nous dit une autre personne que j'ai interviewée, à savoir Frédéric Audren, pour préparer cette émission, il leur recommande d'avoir deux cahiers, l'un sur lesquels on note ses idées en parallèle de son vrai travail. Et cet endroit un peu où il y a plein de brouillons, il les appelle un monstre. On n'a pas d'idées, on est traversé par des idées, il faut les saisir au moment où elles se forment.
Oui, donc ça, c'est ce très beau travail pédagogique que Bruno Latour a fait d'ailleurs longtemps à l'École des Mines avant de venir à Sciences Po. Il appelait ça les ateliers d'écriture. Et en fait, on continue à en faire. Et on pourrait dire que c'est à la base de la formation. L'écriture fait partie vraiment de la pédagogie. Apprendre à déjà noter, d'écrire, suivre les acteurs sur le terrain, je le disais. Donc avoir ce fameux cahier de notes comme un ethnologue. C'est-à-dire que toute cette idée-là de l'enquête, elle vient d'un côté de la philosophie pragmatiste américaine, de Dewey, Lippmann, de James, mais aussi bien sûr de tout ce travail d'ethnologie que Bruno a fait d'abord en Afrique et puis ensuite dans les laboratoires, on y reviendra. Mais il transmet évidemment cette idée que il faut d'abord enquêter, suivre, décrire. Et ensuite, il y a ce travail d'écriture qui est presque quotidien à l'entendre. Hein. Il faut recomposer des textes. Et en fait, chaque problème se pose en fonction d'une forme. Par exemple, il disait à ses étudiants en thèse, votre thèse, elle est finie quand vous avez trouvé la bonne forme. Donc la question de la forme est centrale, évidemment, à la fois dans la recherche et dans la manière de la partager.
Il parle dans Politique de la nature, pour conclure sur ce Bruno Latour enseignant, de trajectoire d'apprentissage. Peut-être que cette expression renvoie un peu à ce qu'il essaye de faire à SPIM, mais aussi au Media Lab, autre laboratoire dont on parlera tout à l'heure. Alors les domaines que Bruno Latour a étudiés sont très vastes, on ne peut pas tous les citer. Il y a beaucoup de livres et d'articles, l'activité scientifique avec ses ouvrages La vie de laboratoire, La science en action, et puis son livre sur Pasteur, la sociologie du droit avec notamment La fabrique du droit, où il est allé en ethnographe d'une certaine manière au Conseil d'État, la modernité, la non-modernité même, qui n'est pas la post-modernité, nous n'avons jamais été modernes, c'est le titre du livre, et bien sûr désormais le terrestre, on lui consacrera une part de cette émission, avec surtout des livres comme Politique de la nature, Gaïa, ou plus récemment, ou Atterrir. Bruno Latour, c'est aussi une machine à inventer des concepts, hein. On peut citer les modes d'existence, il identifie 15 modes d'existence dans cet ouvrage, la cartographie des controverses scientifiques, les humains et les non-humains, en gros les acteurs non-humains qui ont une capacité d'agir et qui sont définis comme tels dans Politique de la nature, les non-humains qui sont aussi des acteurs, hein, par exemple les insectes, les microbes, mais aussi les animaux, la terre, l'eau, qui sont des acteurs avec lesquels finalement, au moment de l'écologie et avec le problème de la fin des ressources, il va falloir apprendre à faire de la politique avec eux et même de la diplomatie. La théorie célèbre de l'acteur réseau, sans doute un des concepts les plus importants et les plus connus de Bruno Latour, comme connu sous l'abréviation désormais célèbre de ANT, pour Actor Network Theory. Gaïa, concept repris, vous l'aviez dit tout à l'heure, de James Lovelock. La zone critique, le terrestre, l'iconoclash, fétiche, les nouveaux, si on peut dire, cahiers de doléances qui apparaissent à la fin du livre Où atterrir, le concept d'agency ou plus largement, donc je je l'ai dit, la non-modernité. Quels sont, parmi ces concepts, ceux qui vous ont les plus marqués, de ces boîtes à outils que vous utilisez le plus souvent ?
Ben moi, pour allonger la liste, parce qu'elle est en fait sans fin, j'en ajoute d'autres. Moi, j'ai été très très frappée par le théâtre de la preuve. Évidemment parce que je suis metteur en scène, mais aussi en histoire des sciences. C'est un concept qui naît, je crois, dans son livre de 84 sur Pasteur et les microbes, avec cette idée que la science a besoin de mettre en scène des dispositifs, des épreuves, pour rendre visibles certains acteurs. Et c'est un concept très très important, à la fois pour comprendre la pasteurisation de la France, comment les microbes sont devenus des êtres avec lesquels on ne pouvait plus éviter, hein, avec lesquels il fallait composer. Et puis le théâtre de la preuve, c'est ces dispositifs scientifiques, expériences publiques qui sont au cœur de la pratique scientifique. Pour moi, c'est un concept essentiel parce qu'il est c'est l'un des concepts qui a profondément renouvelé notre vision de la science et de la science en action, comme il dit. Et puis c'est un concept aussi qu'on peut suivre à travers tous ces textes et qui me permet moi ensuite d'aboutir aux différentes mises en scène et au travail qu'on fait ensemble.
Alors Bruno Latour, c'est aussi un philosophe, et après l'enseignant, on va s'intéresser à son rapport à l'art, un philosophe qui a noué une relation précoce et durable avec les artistes. Il fait des expositions, du théâtre, dialogue avec des danseurs, et vous-même, Frédéric Aitouati, vous mettez en scène son théâtre à Nanterre, à l'Odéon récemment, au Bernardin, bientôt à Karlsruhe. Pourquoi un philosophe fait-il du théâtre ?
Déjà, je dirais que je ne mets pas en scène son théâtre, pas exactement. C'est-à-dire que ce qui est important, je crois, dans notre travail en collaboration au théâtre, c'est que la pensée se fait sur scène. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Il ne s'agit pas de prendre un livre ou une théorie existante et de dire, bah, tiens, comment je vais la mettre en scène, comment je vais l'illustrer, comment je vais la vulgariser, comment je vais la diffuser. Ce n'est pas du tout, je crois, notre question. C'est plutôt l'idée que lorsqu'on écoute une pensée en train de se faire, justement, c'est le théâtre de la preuve, elle est passionnante. Pourquoi ? Parce qu'elle est pleine d'actants, comme disent les sémioticiens, elle est pleine d'acteurs, elle est pleine de choses qui s'agitent et qu'il y a un drame. Il y a un drame de la pensée en train de se faire. Et c'est cette chose-là qu'on essaye ensemble de capter. Donc je mets pas en scène un corpus théâtral. On essaye ensemble de saisir ce qui s'agite en ce moment. Et ce qui s'agite, évidemment, depuis des années, sur les scènes politiques, scientifiques, artistiques, c'est Gaïa.
Mais vous le mettiez en scène, même si aujourd'hui il n'est plus sur scène. Donc le spectacle continue sans lui. Comme cette émission d'ailleurs.
Oui, c'est vrai, on a eu plusieurs étapes, ça fait 10 ans, plus 12 ans qu'on fait du théâtre ensemble, donc il y a eu des époques où on a travaillé avec une compagnie de théâtre, donc il y avait des acteurs qui jouaient ces textes, et puis qui jouaient un texte de Pierre Daubigny, un autre auteur. Ensuite on a fait ensemble le théâtre des négociations à Nanterre, qui était une performance avec des étudiants.
Pierre Daubigny, c'était Gaïa Global Circus.
Gaïa Global Circus, absolument.
Ensuite, il y a eu Inside aussi.
Le théâtre des négociations, ensuite Inside, où là effectivement c'était Bruno Latour lui-même, en scène. Et c'était important pour moi d'avoir ce moment-là où la parole philosophique en train de se faire, je vous le disais, parce que c'était pas un texte écrit. Toutes les conférences de la Tour sont improvisées. Et celles-ci étaient également improvisées, même si elles étaient mises en scène. Donc ça veut dire quoi d'avoir quelqu'un qui est en train d'élaborer sa pensée et de le donner à voir non plus dans une salle de conférence classique, mais sur la grande salle du Théâtre des Amandiers.
Le Théâtre des Négociations à Nanterre, qui avait été fait avec France Culture en juin 2015 dans le cadre des 24 heures climat, là c'était donner des droits à la table de négociation aux non-humains qui devenaient eux-mêmes des acteurs. Et là c'était un spectacle conçu par Bruno Latour avec vous et d'autres.
Alors à nouveau, est-ce que c'était un spectacle ou autre chose ? On est toujours sur des formes hybrides et donc on n'a pas les termes qui correspondent exactement. Imaginez 200 étudiants qui venaient du monde entier, qui avaient travaillé pendant un an avant la COP21 pour jouer par avance la COP21 avec des nouvelles règles. Le défi était le suivant, imaginez donc que les négociations internationales sur le climat soient ouvertes à des non-humains. On en parlait de ce concept-là tout à l'heure, qui jouent des délégations des non-humains en plus des délégations classiques des États-nations. Et donc on a eu ces étudiants qui sont arrivés et qui ont défendu leurs position papers comme des vrais négociateurs pendant une semaine, parfois sans dormir. Donc je ne sais pas si c'est un spectacle, parce que toutes les questions dont il était question étaient des questions réelles, c'est des questions de la COP, de l'époque, de 2015. Tous les étudiants qui étaient là n'étaient pas du tout des acteurs. Il n'y avait aucun script, il y avait énormément de travail et il y avait surtout une espèce de performance en continu ouverte à un public, contrairement aux négociations habituelles. Je ne sais plus du tout si c'est du spectacle.
Un happening peut-être, du hackathon.
On avait appelé ça performance politique, je crois.
Ça veut dire aussi, au fond, que comme on est dans un nouveau monde, selon Bruno Latour, ce nouveau monde du fait de Gaïa, donc c'est-à-dire du terrestre, du nouveau régime climatique, du fait que les ressources vont manquer sur Terre et qu'il faut donc prendre tout ça au sérieux. Il faut donc de nouveaux outils et faire des expositions ou du théâtre. C'est peut-être un moyen de répondre à ces problématiques.
Oui, absolument. Et là, il faut revenir sur le goût pour l'art. Vous le disiez, bien avant de faire du théâtre avec moi, Bruno Latour avait commencé... Alors, j'ai plus la date de la première exposition en tête, Iconoclash, vous l'avez peut-être. Mais il y a eu donc les grandes expositions à Karlsruhe, Iconoclash, Making Things Public, Reset
La Biennale
Modernity.
De Taipei dès 2006, hein, qui a déjà utilisé ce nom, qui va le refaire en octobre 2020 jusqu'en février 2021 avec Martin Guinard.
Voilà, et puis il y a une exposition qui ouvre dans deux mois, à nouveau au ZKM, au Zentrum für Kunst und Medientechnologie de Karlsruhe, et qui s'appelle cette fois Zone Critique. Voilà, donc à chaque fois, on a des expositions qui sont des lieux de travail. Bruno Latour appelle ça d'ailleurs des expositions de pensée, comme des Gedankenexperiments, des expériences de pensée dans l'espace, avec l'idée que c'est par l'art, à nouveau, qu'on peut non seulement comprendre, mais sentir et essayer de se déplacer. C'est ce que disait tout à l'heure Paul Girard, d'ailleurs l'étudiant de SPIP. Évidemment, l'un des buts de ces grandes expositions d'art, c'est de nous faire voir autrement certaines des grandes questions de la modernité, que ce soit la res publica, la chose politique, notre rapport à l'iconoclasme ou la question des modernes.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Il y a un peu plus de 19h sur France Culture. Vous êtes dans Soft Power, le magazine des industries créatives et du numérique. Et ce soir, je l'ai dit, on prend un peu de hauteur, ou plus précisément, on retombe sur Terre, sur le terrestre, autour de la pensée de Bruno Latour. Pourquoi Bruno Latour? Parce que c'est un des penseurs qui nourrit très souvent, non seulement ceux qui font cette émission, mais aussi les secteurs dont on parle, à savoir l'art, le numérique, on l'a dit à l'instant avec les expositions, mais aussi toutes les questions de controverses et de médias, on y reviendra tout à l'heure. Ce qui me marque aussi, Frédéric Aitouati, vous êtes notre invité ce soir pour parler de Bruno Latour, avec lui qu'on va entendre, mais aussi avec d'autres personnes, c'est qu'il a tout un tas de secteurs dans lesquels il agit, il intervient, et il a chaque fois des référents, des équipes, des étudiants qui sont sur ces secteurs. Vous êtes notamment celle qui travaille avec lui sur le théâtre, Martin Guinard, que je citais souvent pour les expositions, les biennales, les arts plastiques, Jean-Michel Frodon pour le cinéma, Donato Ricci pour le design, Dominique Ardon pour le Media Lab et tout ce qui tourne autour du numérique, Frédéric Audren pour le droit, etc. C'est au fond une famille qui s'est construite au fur et à mesure des années.
Je ne sais pas si c'est le bon terme, famille. En tout cas, Bruno Latour est très très curieux.
Et généreux aussi.
Et généreux, donc il traverse énormément de disciplines et il arrive souvent en disant « moi je ne sais rien ». Il apprend beaucoup. Il apprend beaucoup des étudiants. Il leur demande de décrire leurs pratiques. C'est quelqu'un qui a des carnets, qui se renseigne énormément. Et donc, en fait, il a des alliés nombreux sur toutes les questions qu'il traverse. Il n'est pas seul. Et moi, ce qui me frappe, c'est de voir effectivement à quel point il s'est lui-même équipé pour essayer de comprendre le monde dans lequel on vit. Il s'est équipé en non pas en devenant lui-même designer ou critique de cinéma ou cinéaste ou metteur en scène de théâtre. C'est à chaque fois, il reste vraiment à son endroit, mais il essaye vraiment de comprendre et donc d'enquêter en fait dans tous les domaines dans lesquels il passe.
Au fond, un artiste chercheur, on pourrait presque dire.
Peut-être, oui.
C'est ce que pense Yves Citon. Il est professeur de littérature et médias à l'Université Paris 8. Il nous parle de Bruno Latour comme artiste chercheur, justement. Yves Citon interviewé au début de ce mois pour Soft Power.
j'aurais plutôt envie de parler de ça, la forme de ce qu'il nous propose, et en particulier d'essayer de le caractériser comme, alors un chercheur, on sait que c'est un chercheur, mais un artiste-chercheur, comme pratiquant la recherche, mais la recherche-création. Et là, il me semble que c'est quelque chose qui est à la fois évident aujourd'hui, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il fait des performances avec Frédéric Aïtouati, qui relève du théâtre. On sait qu'il a fondé quelque chose qui s'appelle l'École des arts politiques, à Sciences Po, au lieu de faire des sciences politiques. Il fait des arts politiques, et donc on voit bien cette tendance-là. Il me semble que c'est vraiment constitutif de toute sa démarche, je dirais, d'être à la fois un artiste et un chercheur.
C'est quoi un artiste-chercheur ?
Alors, je vais peut-être l'illustrer à travers quatre analogies, quatre rapprochements entre Bruno Latour et quelques autres. D'abord, c'est quelqu'un qui ne se reconnaît aucune limite dans ce qu'il peut faire. De même qu'on a, alors pour prendre des artistes célèbres, on a un Picasso qui fait des collages, qui fait de la peinture, qui fait de la sculpture, qui fait un peu n'importe quoi, qui ne s'interdit rien en termes de médium, en termes de pratique. De même, Bruno Latour a passé sa vie à se poser des problèmes très très divers sur des objets complètement improbables, et à chaque fois en tirer quelque chose de trouvaille. C'est un petit peu Picasso qui dit aussi « je cherche pas, je trouve ». Il me semble qu'il y a ça aussi chez Latour. Il va pouvoir faire n'importe quoi et nous apporter quelque chose qui est évident après coup, alors que c'était complètement improbable a priori. Donc Latour, Picasso. Deuxième élément, Bruno Latour a une création donc à la fois très libre et très hétérogène et très organique. Et à chaque fois reconstitue une sorte de système qui a une évidence après coup, qui a une consistance après coup, alors que c'était imprévisible a priori. Je pense par exemple au livre qui s'appelle M, l'enquête sur les modes d'existence, qui est à la fois une reprise de tout ce qu'avait fait Latour comme enquête a priori antérieure, et qui les systématise à travers une enquête sur les modes d'existence qui nous amène vraiment à comprendre l'organicité de ce qu'il fait. Donc il y a vraiment une création un peu végétale qui se développe toujours, mais qui a son organicité. Troisième analogie, ça serait Bruno Latour comme Denis Diderot. Bruno Latour, il me semble que c'est un énorme écrivain. Ça veut dire un poète, un écrivain. Ça veut dire quoi, un écrivain? Il y a quelque chose de très littéraire. Alors, d'habitude, on l'assimile aux sciences, on l'assimile à la philosophie et pas forcément à la littérature. Il me semble quelque chose de très, très littéraire chez lui. Et je dirais que c'est, alors forcément, le choix des mots, la précision. Il invente des termes ou il reprend des termes comme terrestre, par exemple. Il nous dit que nous sommes terrestres. Qu'est-ce que ça veut dire de dire que nous sommes terrestres? Ça change tout. Donc là, c'est vraiment un travail sur les mots. Mais il nous raconte des histoires. Et plus précisément encore, il joue avec les modes d'énonciation. Et là, il me semble que c'est très rare dans le monde de la science. D'habitude, on parle en tant que scientifique ou on écrit en tant que scientifique. Bruno Latour, il y a une espièglerie constante dans son travail qui fait que on le sent toujours sourire lorsqu'il prend une posture de scientifique. Il nous dit des choses très sérieuses, il peut faire de la philosophie, il peut parler de Spinoza de façon remarquable. Et en même temps, on voit qu'il joue. Par exemple, dans Spinoza, il met en scène un dialogue entre lui et Spinoza. Dans M, le projet sur l'enquête des modes d'existence, il met en scène une anthropologue des modernes qui se pose des questions. Donc il y a ce débrayage énonciatif, je dirais, où lorsque Bruno Latour parle, il met en scène une figure de quelqu'un qui dirait quelque chose. Et là, il me semble que Diderot est, pour moi, l'analogie la plus fondamentale pour ceci. Diderot fait de la philosophie, Diderot fait de la science, mais il écrit des dialogues, il écrit quelque chose qui met en scène, qui problématise l'énonciation même. Et dernier rapprochement pour comprendre ce qui fait un artiste-chercheur, cet artiste-chercheur qui est Bruno Latour, je dirais qu'il parle de et il s'adresse à quelque chose comme l'âme. C'est pas seulement des affaires de connaissance, c'est pas seulement des affaires de savant à savant. On sent une âme de Bruno Latour qui fait vibrer quelque chose, pour un lecteur comme moi en tout cas, qui relève de l'âme. Et là, la dernière analogie artistique que je ferais venir, ça serait peut-être Aretha Franklin, c'est peut-être inattendu. Il y a quelque chose comme de la soul chez Bruno Latour. Non seulement parce qu'il se permet de parler de religion, parce qu'il se permet de parler d'autre chose que simplement une sorte de réduction matérialistico-rationaliste de ce que seraient les humains, mais aussi parce qu'on sent une vibration, on sent une générosité parlais de partage, si je parlais d'amour tout à l'heure, c'est aussi, il y a quelque chose comme une âme qui parle à des âmes et qui va au-delà de ce qu'on fait habituellement dans les sciences. Et donc Aretha Franklin, il me semble que ça peut, reine de la soule, en plus avec quelqu'un qui vient du vignoble, hein, de parler de fils du vignoble à une reine de la soule, il me semble que c'est aussi un beau programme. Et donc ces quatre figures-là cadrent peut-être ce qui, dans Bruno Latour, donne aussi une densité, une intensité, une présence de pratique et de création artistique, en plus forcément de tout ce qu'il nous donne en termes de concept, en termes de méthodologie, en termes de réflexivité, qu'on attribue d'habitude à son travail sur les STS, les Science and Technology Studies, sur l'anthropologie des sciences, et là je pense que d'autres en parleront mieux que moi.
Yves Citon, à l'instant, qui jouait sur les sols, les saules et le vignoble. Frédéric Aitouati, peut-être une réaction.
Oui, j'aime beaucoup cette description de Bruno Latour en Diderot. Je trouve qu'il y a une grande justesse. Et je voulais juste prolonger ce que dit Yves Citon rapidement en disant que moi, ma rencontre avec Bruno Latour, outre la rencontre avec le personnage, c'était une rencontre avec des textes extrêmement puissants. Et les microbes guerre épée dont je parlais tout à l'heure, c'est une épopée.
Ouais.
Sur Pasteur. Voilà, le lien avec Tolstoï est très présent. Et puis,
guerre épée.
Guerre épée, il en parle. C'est le fil d'ailleurs directeur du livre. On peut redire que c'est Peggy avec lequel il commence son travail de chercheur.
Et puis, qui vient du monde catholique d'ailleurs.
Absolument, voilà. Et puis avec Clio qui pour lui est un texte théologique essentiel. Et puis depuis quelques années, on parle beaucoup de Brecht ensemble. Voilà, donc ce lien avec la littérature et
Brecht parce que c'est aussi Galilée, donc la vie de Galilée versus Gaïa d'une certaine manière.
Donc, je voulais revenir sur ce Latour écrivain dont parle si bien Yves Citon.
Alors, il y a aussi une manière de relier son travail de sociologue pour terminer avec cette séquence sur l'art et son travail sur l'art. On écoute Bruno Latour au micro d'Adèle Vanrette, Les chemins de la philosophie, c'était en septembre dernier.
Si on voulait résumer mon travail auprès des sociologues et pas auprès des philosophes, mais c'était un peu plus compris quand même par les sociologues, c'était dire le social, c'est pas une matière particulière qui serait à côté des autres, l'économique, le biologique, etc. Le social, c'est des associations de toutes sortes et essayons de qualifier le type d'association avec lequel la société est formée. Et donc, je prétends, moi, en sociologue, pour la partie de ce que j'ai fait comme ce qui s'appelle sociologie, que essayer de comprendre la société, par exemple, sans comprendre le lien religieux, ça n'a pas beaucoup de sens. Comprendre la société sans comprendre le lien qui est établi par les liaisons juridiques ou les liaisons technologiques, comme celle qui nous lie ici, vous et moi, à travers ces machines et à nos auditeurs, ça n'a pas de sens non plus. Donc ce qu'on appelle le social, c'est la somme de toutes ces associations différentes dont chacune doit être distinguée dans son mode, parce que ça transmet pas pareil les différents types de vérité. Disons que pour chaque mode, il faut un terrain et une approche particulière. Donc j'ai beaucoup travaillé sur les arts, mais c'est pas en étant artiste, c'est en étant directeur, commissaire d'exposition. Par exemple. Donc j'ai voulu comprendre les organisations, je suis devenu directeur scientifique de Sciences Po. Il faut l'approche, parce que sans ça, les modes sont tellement différents que si on regarde, le métier d'exposition, de commissaire d'exposition à partir d'une description scientifique du monde, on comprend rien de ce qui se passe. Et si on veut comprendre quelque chose à la religion sans rien sentir du travail, de la vérité religieuse, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, c'est ces éléments-là qui m'intéressent.
Bruno Latour au micro de France Culture. Alors on a commencé cette émission en parlant de Bruno Latour enseignant, on a ensuite évoqué l'art, que ce soit le théâtre, les expositions. Venons-en au numérique, autre sujet qui fait le lien entre ce dont on parle régulièrement dans Soft Power et la pensée de Bruno Latour. Le numérique qui est aussi lié chez lui évidemment à la technique et à l'origine à la science. Une pensée qui est déterminante sur le numérique. Il a créé notamment le Media Lab à Sciences Po, le Media Lab qui s'occupe au fond des humanités numériques, on pourrait dire, qui est dirigé aujourd'hui par Dominique Cardon. C'est un laboratoire de Sciences Po, créé lorsqu'il était directeur scientifique, au moment où il a eu une intuition, finalement, les sciences sociales ont besoin d'un instrument. Et ce nouvel instrument, c'est le numérique. Alors, on produit des données, on doit les utiliser, il faut renouveler la méthode des sciences sociales, un peu remettre à jour le vieux manuel de Madeleine Gravitz sur le sujet. Il faut des ingénieurs, des chercheurs en sciences sociales, mais aussi des artistes ou des designers pour visualiser les données. L'un des textes théoriques qui a permis à Bruno Latour de penser tout ça, c'est un article qui s'appelle « Le tout est toujours plus petit que ses parties » qu'on peut trouver sur le site du Media Lab ou sur le site de Bruno Latour. Les sciences sociales, au fond, changent et vont changer grâce à Internet. Il faut redessiner les réseaux et la représentativité de la société grâce au numérique. Et ça va donner beaucoup de choses. Ça va donner, bien sûr, le travail autour du Media Lab et de sa vingtaine de chercheurs. Ça donne aussi l'enquête sur les modes d'existence, site qui est construit par le Media Lab, qui est une plateforme où chacun, en l'occurrence, peut participer. Et puis, c'est tout un tas de concepts à nouveau. Et là, on en vient au concept clé retravaillé par Bruno Latour après d'autres chercheurs, comme Michel Calon, Madeleine Akritz ou John Lowe, celui de la théorie de l'acteur réseau, connue sous l'abréviation ANT, pour Actor Network Theory. C'est l'idée très nouvelle au fond, je l'ai dit tout à l'heure, selon laquelle les objets non humains sont aussi des acteurs ou des actants en tout cas. Autrement dit, si on veut comprendre Internet, comme si on veut comprendre l'écologie ou la Terre, eh bien pour schématiser et faire simple, il ne faut pas simplement regarder ce que les humains en font, mais comment le réseau fonctionne et comment il agit par lui-même, comment ces tuyaux, ces réseaux, ces outils ont un impact sur ce que le numérique devient. Sur ces questions, je vous propose d'écouter Bruno Latour. C'est à la fois dans Hors-Champ et dans Place de la Toile, autour de ce qu'est un ordinateur.
L'ordinateur attire très peu de philosophie des sciences et d'histoire des sciences. On sait très peu de choses. Vous prenez le texte de Turing, qui est quand même le texte le plus important. Vous avez un texte. Ce texte de Turing n'est jamais lu, naturellement, par les gens qui parlent de la virtualité des ordinateurs. Et vous lisez le texte de Turing, c'est quelque chose d'hallucinant. On y parle d'Allah, on y parle évidemment d'abord d'une femme et d'un homme qui sont des travestis, comme chacun sait. On y parle de la bureaucratie, on y parle d'enfants battus avec des orties. C'est un zoo de choses extraordinaires, cet article. Et ça n'empêche pas les gens de dire « Turing a inventé la machine de Turing qui est faite que de 0 et 1, qui est complètement virtuelle ». Donc, c'est le problème général de toutes ces questions de toile et de numérique, c'est qu'on accepte, au fond, l'idéologie dématérialisée, alors que c'est toujours rematérialisé. Simon Schaffer nous a dit, mais l'erreur que vous avez commise en France, c'est de l'appeler numérique. Il fallait rester au mot français « digital », que nous avons, nous les Anglais, disait-il, emprunté, qui est un mot parfaitement français, il existe en 1730. Il a été réutilisé par les Anglais. Ensuite, il a été réimporté en 1960 par les Français, digital. Et là, l'Académie des sciences a dit non, c'est un anglicisme, on va l'appeler numérique. Pourquoi il a insisté là-dessus? Parce qu'il disait que si vous êtes digital, dans les digitales, il y a les doigts, il y a le clavier. Et donc, ce que vous appelez une révolution numérique, c'est que vous tapez sur un clavier, qui est d'ailleurs un truc complètement bordélique et complètement provisoire dans l'histoire des techniques. Vraiment un objet de transition dont on attend la fin avec impatience. Et donc, Vous avez confondu dans la révolution numérique des choses qui n'ont absolument rien à voir, un écran et un clavier, la machine de Turing étant un intermédiaire entre le télégraphe et l'ordinateur, alors que la révolution digitale commence bien avant, quand on commence à coder avec ses doigts des chiffres, des alphabets, etc., etc.
À l'instant, Bruno Latour, on l'écoutait dans Hors-Champ ainsi que dans Place de la Toile sur France Culture. Une réaction, Frédéric Aitwati.
Je voulais juste, ça me rappelait le moment où on s'est rencontrés avec Bruno en 2003. Il m'a proposé comme premier geste de théâtre ensemble de mettre en scène l'article de Turing dont il parle. C'est un article incroyable de 1950, le premier article où le mot « computer » apparaît. Et effectivement, c'est un article qui est bourré d'actants. Et en fait, quand on lit cet article, on comprend à la fois l'importance du numérique et l'étrangeté des écrits scientifiques, soi-disant inertes, mais en fait, quand c'est des écrits vraiment créateurs, comme l'extraordinaire article de Turing de 1950, ils sont bourrés d'acteurs et de théâtre.
Turing qui devient sur les billets de banque anglais après le Brexit, une sorte d'hommage lointain et posthume, alors qu'il n'avait pas toujours été bien apprécié au moment de sa vie. Un mot sur Enquête sur les modes d'existence, donc le livre de Bruno Latour, qui a mis en place un dispositif en plus du livre, un dispositif original qui s'appuie sur une enquête collective auquel le livre du même nom sert d'introduction. Et grâce à ce dispositif numérique original, les lecteurs peuvent participer au recueil d'expériences multiples couples répétés, repérés par l'enquête avant de devenir eux-mêmes coproducteurs des versions finales du projet. Un exercice finalement d'humanité numérique et que l'on peut tous aller voir en allant sur ce site qui a été mis en place autour des mondes d'existence, des modes d'existence. On peut évoquer ses influences, on n'a pas le temps de tout dire, on pouvait parler des gens qui l'ont marqué, je pense à John Dewey, ça a été dit tout à l'heure, de William James, surtout Whitehead, Simondon, mais aussi des influences comme André Mallet, Étienne Souriot, Michel Serres, Isabelle Stengers. Mais sans rentrer dans toutes ces influences et ces penseurs, arrêtons-nous quand même quelques secondes après les préoccupations autour de l'art du numérique et la méthode pédagogique de Bruno Latour. Et avant de traiter la communication et pour conclure l'influence internationale de Bruno Latour et l'écologie, on peut peut-être consacrer quelques minutes au projet philosophique latourien, à sa méthode, disons pour une part anthropologique, et à sa pensée sur les sciences. Je vous propose d'écouter Bruno Latour dans Les chemins de la philosophie sur son projet relatif au régime de vérité. Pour commencer, c'était en septembre 2019.
J'avais mon projet qui était d'étudier empiriquement ces différents régimes de vérité. Donc, à ce moment-là, j'ai cherché des moyens de le faire. Donc, j'ai appris le métier d'ethnographie, si on peut dire, à Abidjan, avec des très bons, très excellents collègues. Et ensuite, j'ai essayé de me déplacer dans le monde, en Californie d'abord, et ensuite en France, dans des lieux différents, pour, en quelque sorte, poursuivre mon projet que je poursuis toujours.
La recherche de la vérité.
La recherche des modes de vérité est différente, disons, de la juxtaposition et de la superposition, les modes de vérité différents, la philosophie étant un des moyens d'éviter que l'un de ces modes prenne le pas sur les autres, disons, éviter l'hégémonie d'un mode de vérité, par exemple, l'hégémonie du mode religieux, ou l'hégémonie du mode scientifique, ou l'hégémonie du mode juridique, ou du mode politique.
Parce qu'il y a plusieurs vérités qui cohabitent?
Il n'y a pas plusieurs vérités, mais il y a plusieurs modes de définition de ce que c'est que être vrai selon un mode, disons. La notion de mode est importante pour moi. Et cet axe-là, il y a une façon d'être vrai juridiquement, que tout le monde comprend. Oui, c'est vrai juridiquement, c'est une vérité très profonde pour un juriste, même si de l'extérieur, c'est pas vrai scientifiquement, ou c'est pas vrai politiquement, on comprend bien. Il y a une vérité morale, il y a une vérité scientifique, évidemment, il y a une vérité religieuse, et ce qui m'intéresse en ce moment beaucoup, c'est qu'il y a aussi une vérité politique, c'est-à-dire un mode de vérité politique qui permet de définir la différence entre vrai et faux, qui est également complètement différente du mode scientifique, qui n'est pas en termes d'information, mais qui est en termes d'une certaine qualité qui est propre au mode.
Toujours au registre philosophique, après les modes de vérité, l'anthropologie, au fond, de Bruno Latour. Pour lui, la modernité occidentale est terminée, comme d'ailleurs l'idée du progrès, du fait de la question écologique. Et il applique l'anthropologie, censée étudier les sociétés primitives, à l'Occident ou à la science. Retournement finalement génial, puisque au lieu d'aller étudier, comme Claude Lévi-Strauss ou d'autres, telle tribu ou tel groupe très lointain, il va étudier le Conseil d'État. Au centre même, et avec les méthodes d'une certaine manière de l'anthropologie, une méthode qu'il appelle notamment, dans Politique de la nature, anthropologie expérimentale. Pour lui, la séparation entre nature et culture n'est plus, qui était au fondement de notre modernité, n'est plus forcément pertinente. Elle est renversée, les non-humains ont un rôle, et donc tout va changer, puisque la nature va parler tout autant que la culture. Je vous propose d'écouter Bruno Latour, c'était dans la suite, dans Les idées, en 2012.
J'ai l'impression qu'on n'a pas, en tout cas, assez systématiquement, à cause d'ailleurs très largement de la théorie de la science que les gens ont, on a envoyé l'anthropologie à l'étranger, disons, mais à part des travaux tout à fait récents de Descola et des autres, on a assez peu ramené l'anthropologie sur nos propres terrains. Et donc, la base qui permet de comparer les non-modernes ou les pré-modernes ou les hyper-modernes ou les super-nouveaux modernes, etc., ou les néo-modernes, reste très fragile, puisqu'on nous attribue des défauts ou des qualités qui n'ont jamais été finalement tellement vérifiés sur le terrain. J'ai été assez surpris de voir que, sur le cas des sciences, les science studies ont été les premiers à faire des études un peu empiriques sur la façon dont les sciences se passaient. Jusqu'ici, c'était de l'anthropologie en fauteuil. J'ai été aussi stupéfait de voir que sur les projets techniques, le nombre des études continue à se compter sur les doigts de demain. J'ai été aussi surpris de voir que sur le droit, les études d'ethnographie de la fabrique du droit sont aussi peu nombreuses. Donc en fait, le paradoxe, c'est qu'on sait assez peu de choses On sait assez peu de choses sur nous-mêmes. Dans le cas de l'économie, de l'anthropologie économique, à part, on sait beaucoup plus de choses sur l'anthropologie économique des trop brillandais qu'on le sait sur la bourse de New York. Même si maintenant les choses se transforment grâce à la nouvelle anthropologie économique. Mais justement, elle-même dépend d'ailleurs des science studies. Donc on a en fait, c'est simplement ça que j'essaie de résumer par cette expression d'institution. La connaissance des institutions qui produisent de l'économie reste extraordinairement lacunaire, parce qu'on est obsédé par les guerres de religion, au niveau cette fois-ci idéologique, entre le marché, l'État et toutes ces choses qui ne correspondent pas à des pratiques. Et la notion de valeur, elle, c'est une notion extrêmement simple, c'est que si vous restituez à quelqu'un une description de ce qu'il fait, la question c'est est-ce qu'il vous ferme la porte à la figure ou pas ? Alors, dans l'anthropologie, à l'ancienne, c'était un peu moins vrai, parce que ce que disent les gens de ce que vous dites d'eux ne paraissait pas aussi important. Mais maintenant, l'anthropologie, elle aussi, est devenue réflexive, évidemment, c'est beaucoup plus important, et les valeurs, c'est une définition de ce à quoi on tient. Donc c'est très simple. Si vous m'enlevez ça, je suis plus européen, je suis plus occidental, je suis plus un humain, je suis plus un Français, je suis plus un Européen, enfin, peu importe l'expression. En tout cas, je meurs. Voilà, un assez bon test. Si on m'enlève ça, je ne suis plus moi-même. Et ça, c'est un test que tous les anthropologues doivent passer.
On a évoqué la philosophie de l'art, sa manière d'enseigner. On a évoqué, au fond, comment sa pensée pouvait nourrir le numérique et, d'une certaine manière, les médias. Venons-en, toujours autour de la pensée de Bruno Latour, philosophe, sociologue. Venons-en à l'écologie, inévitablement. L'écologie qui arrive, je dirais presque naturellement, hein, si j'ose dire, à partir de ses expériences sur les sciences. Encore une fois, c'est pas une pensée seulement théorique ni critique. Il part du terrain et, en l'occurrence, du sol et de la zone critique. Ça s'appelle notamment Gaïa, c'est un livre. Je vous propose de l'écouter dans Les chemins de la philosophie, c'était en 2019.
Gaïa, c'est le nom de la Terre, disons, c'est ce dans quoi nous sommes. Nous n'avons aucune expérience, aucun humain, aucun animal, aucune plante, aucun microbe n'a jamais eu d'autre expérience que d'être dans Gaïa. Donc, Gaïa, c'est le nom de la nature, mais précisément pas la nature infinie qui nous emmènerait dans le cosmos, dans les questions de physique, mais disons de la géochimie tout à fait simple, mais construite par les vivants depuis 5 milliards d'années dans l'intérieur duquel nous sommes. Vous parliez de vue personnelle, alors voilà un cas où la vie personnelle ne se pose pas, parce que sans l'ensemble de cette existence multiple, de tous ces êtres qui ont constitué, qui se sont agencés, disons, pour construire Gaïa, nous n'existons pas. Donc c'est paradoxal, c'est que Gaïa apparaît comme un concept bizarre et nouveau, alors que aucun vivant n'a jamais eu d'autre expérience que d'être dans Gaïa. Et ce qui me passionne à la fois philosophiquement et scientifiquement, c'est la question comment se fait que ce concept fondamental continue à être un peu méprisé ou qui paraisse bizarre alors que c'est ce dans quoi nous sommes. Et l'autre chose qui m'intéresse, c'est quelle est la forme politique qui permet à des citoyens de se retrouver, d'abord de constituer une citoyenneté gaïesque en quelque sorte, et de se trouver dans la situation non pas d'être un humain dans la nature, mais un terrestre dans Gaïa, en quelque sorte. C'est un changement de représentation politique. Et vous voyez, ça n'a rien à voir avec un engagement. C'est pas rentrer à l'intérieur de, par exemple, de l'écologie telle qu'elle est constituée. Et c'est plus un problème écologique, d'ailleurs. Et je trouve que ça, c'est un bon moyen, c'est de, à la fois, d'utiliser la recherche la plus fondamentale dans mon domaine, qui est, disons, à la fois scientifique et philosophique sur ce que c'est que tous ces problèmes, la nature, ce qu'on appelle, dans un terme moins provoquant que Gaïa, Earth System Science, la science du système Terre, et en même temps, d'inventer le dispositif.
À l'instant, Bruno Latour, dans Les chemins de la philosophie. Frédéric Aitouati, vous êtes notre invité ce soir pour parler de la pensée de Bruno Latour. Une réaction peut-être autour de Gaïa, mot complexe à définir, mais tout simplement, c'est la Terre active, au fond, Gaïa.
Alors Gaïa fait intrusion dans les mots d'Isabelle Stengers et pour moi elle fait intrusion en 2009 quand Bruno Latour commence à utiliser le terme et à nous proposer...
C'est un grand tournant dans son œuvre.
Tournant essentiel puisqu'il n'y a rien de plus important que que Gaïa, selon lui, et Gaïa devient le fil directeur de tous ces textes, de toutes ces interventions médiatiques. Et puis, ce qui est assez fascinant, c'est de voir comment Gaïa continue à nourrir son travail aujourd'hui. Hein. Il m'envoyait encore il y a deux jours un nouvel article. Donc, il travaille à la fois avec des scientifiques du système Terre, Lenton notamment, qui est un héritier de James Lovelock, avec le jeune chercheur Sébastien Dutreuil. Il travaille avec des architectes sur comment représenter la zone critique, il travaille avec des designers. Donc en fait, on a autour de Gaïa un changement de cosmos, un changement de monde qui, d'après Latour, est aussi essentiel, aussi fondamental que celui qui a eu lieu autour de Galilée. Et c'est ce changement de monde à la fois politique, esthétique, scientifique et profondément intime qui nous aide à penser.
Je tiens à remercier un certain nombre de chercheurs qui m'ont aidé à préparer cette émission, en partageant avec moi leurs idées sur l'œuvre et l'influence de Bruno Latour, Emmanuel Cocha de l'EHESS, Philippe Pigrane, son éditeur, Dominique Cardon du Media Lab à Sciences Po, Martin Guinard, co-curateur d'exposition avec Bruno Latour, l'historien du droit Frédéric Audren, ainsi que bien sûr Yves Citon, que l'on a entendu, ses étudiants et vous-même. Frédéric Aitwati, merci enfin à Nathan Marcel Millet qui a sélectionné ce soir les extraits sonores et les interviews de Bruno Latour. Il y aurait d'autres sujets à évoquer, je signale juste que Olafur Eliasson, c'est un artiste qui fait une grande exposition écologique à la Kunsthaus de Zurich. Il salue au début de son exposition et à la fin l'œuvre de Bruno Latour comme l'une de ses influences, on pourrait le dire, de beaucoup d'artistes aujourd'hui, de gens du design, de l'architecture qui sont influencés par ses œuvres. Une anecdote pour finir, à la découverte de sa maison d'édition, on me dit que Bruno Latour a demandé et choisi sa propre police de caractère pour ses livres imprimés en, je vous le livre en scoop, en Novel Pro, c'est le nom de la police. Une police particulière pour de nouveaux types de livres. Merci infiniment à vous, Frédéric Aitwati, d'avoir été notre invité ce soir. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast ainsi que beaucoup de compléments, références, livres et musiques qu'on a diffusés ce soir. Semaine prochaine, dans Soft Power, on parlera de philanthropie. J'ai encore une seconde pour vous dire que demain, dans les matins de France Culture, le philosophe Marcel Gauchet ainsi que Sébastien Soriano, le président de l'ARCEP, seront invités des matins de France Culture. En attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne. Bonne fin de week-end.